Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie. Et après, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point de la semaine. L'heure suivante, comme d'habitude, vous allez écouter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter le courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La ministre indonésienne des Affaires étrangères participera à la consultation bilatérale au forum d'Oslo à la Norvège. Pertamina Indonesia explore les opportunités de marché de lubrifiants en Égypte. Le gouvernement indonésien accélère les négociations de l'accord économique avec l'Union européenne. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, fera une visite à Oslo, la Norvège, du 11 au 13 juin pour assister à la troisième réunion de consultation bilatérale. En outre, elle assistera également au forum d'Oslo. Le directeur européen du ministère des Affaires étrangères, M. Wicaksono Aji, a expliqué que la consultation conjointe entre l'Indonésie et la Norvège ont été mandatées depuis 2013 par un protocole d'accord signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Mais la première consultation a été réalisée en 2015 à Oslo et la deuxième consultation à Jakarta en 2016. La troisième consultation bilatérale aura lieu le 12 juillet 2017 à Oslo. Dans la conférence de presse tenue le vendredi 9 juin 2017 à Jakarta, M. Wicaksono Aji a dit que, comme un bon ami, les deux pays veulent traiter de diverses questions ensemble. Les questions à discuter sont liées à l'environnement, la marine et la pêche, l'énergie et l'énergie renouvelable, la coopération des droits de l'homme et l'harmonie entre les adeptes d'une religion. Principalement et dans le domaine de l'environnement, il y a beaucoup de coopération dans la réduction des émissions d'assistance norvège en Indonésie, et aussi dans le domaine de la marine et de la pêche, où la Norvège est aussi l'un des pays qui ont soutenu l'Indonésie pour la pêche illicite non réglementée, non déclarée. La pêche est un crime transnational. Bien sûr, inclure l'économie et l'investissement, où la Norvège a des grands fonds d'huile, le résultat, ces économies de pétrole étant investies dans le monde entier. Selon M. Wicaksono, il y aura une coopération triangulaire dans laquelle les deux pays peuvent contribuer à des projets comme en Afghanistan et d'autres. En outre, les questions liées à la manipulation du terrorisme, les questions régionales et multilatérales, et lors de la visite du ministre des Affaires étrangères à Oslo, il y aura la signature d'un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service. La Norvège est le deuxième pays de la région nordique. Après, il y a quelque temps, l'Indonésie et la Suède ont signé un accord d'exemption de visa diplomatique et service. lors du forum d'Oslo sur le thème « Faire la paix dans une nouvelle ère de géopolitique », la ministre Ratna Marsoudi sera la conférencière principale lors d'une session de discuter de l'expérience indonésienne dans le domaine de la résolution des conflits et des mesures de l'Indonésie dans l'ASEAN pour établir la stabilité et la sécurité dans la région. Le forum d'Oslo est un forum annuel organisé par le ministre des Affaires étrangères en coopération avec le Centre pour le dialogue humanitaire. Ce forum a pour but de partager des expériences sur la résolution des conflits et la médiation et aussi de construire un réseau de coopération dans la réalisation de la paix. Le forum a réuni 100 chefs de région de niveau d'État et de gouvernement au niveau ministériel, l'envoyé des Nations Unies, des universitaires et des autres. Pertamina Indonesia, à cet égard Pertamina Lubrifiant, explore les opportunités de marché des produits lubrifiants en Égypte. Lors d'une visite en Égypte du 4 au 16 juin 2017, la délégation de Pertamina, facilitée par l'ambassade d'Indonésie, a organisé des réunions d'affaires avec 6 sociétés égyptiennes. Cela a été déclaré par l'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire, M. Burman Rahman à RRI au Caire. La réunion était tenue avec des entreprises qui ont importé des produits des accessoires automobiles indonésiens, tels que les pneus et la jante de voiture, ainsi qu'avec d'autres sociétés égyptiennes partenaires potentiels. L'Égypte est un marché potentiel pour Pertamina.
Mesir dengan populasi penduduk mencapai 92 juta orang.
L'Égypte avec une population de 92 millions de personnes est un marché assez potentiel pour le fabricant de lubrifiants. Par conséquent, Pertamina Indonesia a l'intention de commercialiser et développer des produits lubrifiants Pertamina en Égypte. Selon M. Burman Rahman, actuellement il y a un certain nombre de produits lubrifiants jouent sur le marché égyptien, mais Pertamina croit que leurs produits peuvent rivaliser en termes de qualité et de prix. La délégation de Pertamina est dirigée par Andrea Nusa, a livré une réponse positive de la part des entreprises égyptiennes et bien accueillie par l'ambassadeur de l'Indonésie à l'Égypte, Helmi Fauzi. On espère que cette visite peut immédiatement être améliorée, surtout pour des choses qui sont plus techniques. Le gouvernement indonésien accélère l'achèvement de négociations de partenariat économique avec l'Union européenne dans le cadre de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie en faisant la réunion intersection du 6 au 9 juin 2017 au Bruxelles, Belgique. Le directeur général des négociations commerciales internationales du ministère du Commerce, M. Imam Pambagio, a déclaré que la réunion d'intercession a eu lieu avant le troisième cycle de négociations de l'accord de partenariat économique global de l'économie entre l'Indonésie et l'économie de l'Union européenne qui aura lieu en septembre 2017. Cela a été déclaré par M. Imam Pambagio dans un communiqué de presse du ministère cité par Antara le samedi. Cependant, la réunion d'intercession, on a organisé des discussions intensives sur le projet de texte de l'accord dans plusieurs secteurs, tels que le commerce des marchandises, les règles d'origine, le commerce des services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la coopération économique, y compris le renforcement des capacités. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les infos de l'Indonésie, un programme qui présente les infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Depok, Jawa West. La bibliothèque mobile du gouvernement de la ville de Depok, Jawa West, pendant le mois de Ramadan, vient au nombre d'internet islamique et d'orphelina à accroître l'intérêt pour la lecture chez eux. Le chef du département de bibliothèque du bureau d'archives et de bibliothèque de la ville de Depok, Chatur Sri Astuti, a déclaré jeudi à Depok que les activités à l'orphelinat et en pensionnat fait de cultiver l'habitude de lecture, bien qu'ils subissent actuellement une série de cours au mois sacré de Ramadan. Le calendrier du Bibliobus à l'orphelinat et Internet a commencé le 4 juin 2017, à savoir en visitant des orphelinats à Al-Kamila, à Serwa, Bojongsari. La deuxième info vient de Montauk, Jambi. Une équipe conjointe formée par la salle préservation du patrimoine culturel Jambi a ouvert une enquête de sous-marin pour déterminer l'état actuel de navire Asigara qui est englouti dans le détroit de Bangka au temps de la Seconde Guerre mondiale. Le chef de département de la culture du bureau touristique et culturel de Bangka Ouest, M. Bambang Haryo Suseno, a annoncé jeudi à Montauk. Cette équipe conjointe se compose de divers éléments, à savoir les enquêteurs de la police Bangka Belitung, Polairut ou police marine et aérienne, l'armée marine, Kesyah Bandaran et administration portuaire, y compris le gouvernement de la province de Bangka Belitung, le gouvernement de la région Bangka Ouest, la maison de la préservation du patrimoine culturel de Jambi et le groupe de plongée Or Bangka Belitung. Une équipe conjointe étant composée de 18 personnes qui ont des compétences dans le domaine de la plongée et des objets de patrimoine culturel subaquatique effectuera des recherches sur 5 jours à cet endroit. L'étude a été menée pour donner suite aux allégations d'objets qui ont une valeur historique a été affectée par le nettoyage du canal de transport effectué dans le détroit de Bangka. La dernière info vient de Semarang, Java Central. Le gouvernement provincial de Java Central a développé une application spéciale pour recevoir l'enregistrement des étudiants des lycées et des écoles professionnelles. Le lancement de l'application est de faciliter les étudiants dans le niveau secondaire junior ou en ligne professionnelle. Cette application a été officiellement lancée le mercredi soir par le gouvernement de Java Central, M. Ganjar Pranowo. Il a dit que l'application d'enregistrement en ligne des écoles professionnelles en Java Central était la deuxième en Indonésie après Jakarta. L'application en ligne en 2017 est la réponse à l'inquiétude des parents et des étudiants diplômés des écoles secondaires qui veulent trouver une école d'une manière transparente. La demande d'enregistrement peut être téléchargée sur les téléphones intelligents basés sur Android dans Play Store. Les étudiants et les parents peuvent toujours obtenir des informations sur l'admission dans les écoles désignées à jour. Lors de l'inscription à l'école professionnelle, l'enfant ou le parent sont suffis de remplir un fichier en ligne. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie, de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs et auditrices, on écoute quelques événements historiques importants de quelques pays de 11 juin. Entre autres, 11 juin 1903, coup d'état en Serbie. 11 juin 1938, début de la bataille de Wuhan en Chine. Et 11 juin 1963, un bonze bouddhiste s'immole par le feu. Un coup d'état a lieu en Serbie le 11 juin 1903, lors de ce soulèvement. Le roi Alexandre Ier Obrenović, pro-autrichien, sa femme et ses principaux ministres sont assassinés par des officiers nationalistes membres de la Mer Noire et désireux de renverser le pouvoir en place. Le roi Pierre Ier Karađorđević prend la succession d'Alexandre Ier sur le trône de la Serbie. Il meurt en 1921 après avoir passé le trône à son fils. En chance, le 11 juin 1938, début de la bataille de Wuhan en Chine. La bataille de Wuhan est une des batailles à grande échelle durant la Seconde Guerre sino-japonaise. Plus d'un million d'armées nationales révolutionnaires a réuni sous le commandement de Chiang Kai-shek pour défendre Wuhan de l'attaque japonaise dirigée par Yasuji Okamura. Cette bataille a eu lieu au nord et au sud du fleuve Yangtze, répartie sur une vaste zone dans la province de Lanhui, du Henan, du Jiangxi et de Hubei. Cette bataille fut la plus grande bataille de l'histoire. La guerre a entraîné de lourdes pertes des deux côtés, avec un nombre estimé de 540 000 morts. Après 4 mois de batailles sanglantes, le Japon finit par être victorieux sans pour autant anéantir définitivement l'armée chinoise qui allait des Russes à opposer une grande résistance. Pour protester contre le régime dictatorial pro-américain du président vietnamien Ngo Dinh Diem, un bon bouddhiste se suicide par le feu à Saigon, Vietnam du Sud. De trémolations publiques suivront et le mouvement d'opposition seront sévèrement réprimés par le pouvoir. En novembre, un coup d'État renversera le gouvernement de Ngo Dinh Diem qui sera fusillé. En 1964, les États-Unis décideront d'envoyer des troupes au Vietnam afin de s'opposer à l'avancée communiste. Ces amis, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir, l'édition le 11 juin. À demain.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème, donc le titre, des dizaines de pondok pesantren, cela veut dire les écoles coraniques forment une alliance des pesantren de Java. Pesantren, ou on peut dire l'école coranique, c'est un lieu d'hébergement provisoire, un temps centre d'apprentissage religieux islamique et demandé de fournir des théologiens musulmans qui ont une connaissance approfondie et crédible sur la religion et la nationalité. C'est important pour les pesantren pour qu'ils puissent diffuser les valeurs islamiques de la paix et tolérer la diversité. Cela a été exprimé par le directeur général de l'éducation islamique du ministère des Affaires religieuses, M. Komarudin, dans son bureau à Jakarta, jeudi 8 juin 2017, quand il a accueilli les 30 jeunes professeurs islamiques qui ont représenté des pesantren de Java et Madura, qui sont également comme les participants de l'atelier de formation d'une alliance des pesantren de Java. M. Komarudin a déclaré que le pesantren aide vraiment le gouvernement pour éduquer la nation et propager les valeurs islamiques modérées. Les affaires religieuses, nous devrions être dans le contexte de la diversité du pays de l'Indonésie. Cette capacité de gérer la diversité a fait les éducateurs du pays à établir l'Indonésie. Cet atelier fait partie du programme de pesantren sur la paix qui est dirigé par le Centre d'études religieuses et la culture de l'Université islamique d'État de Sharif Hidayatullah, ou CSRC, et Konrad Adenauer Stiftung. Il coopère avec 750 pesantren de Java et Madura. Ils ont coopéré avec 1500 enseignants islamiques et d'apprenants islamiques. Le directeur de CSRC de l'Université islamique de l'État de Sharif Hidayatullah, M. Irfan Abu Bakar, a déclaré que ce programme a eu lieu depuis 2015. Son université coopère avec les pesantren partenaires afin de tenir un approfondissement des documents liés à l'islam et les droits de l'homme. Les membres de pesantren qui ont déjà participé à l'atelier, ensuite, il faut propager les messages de paix aux autres membres et aussi aux étudiants, y compris aux citoyens. Après avoir participé à cet atelier pendant 2 jours à Jakarta, 30 jeunes enseignants islamiques ont rencontré le président de MPR, M. Zulkifli Hassan. Il a souligné que la réunion de routine entre les groupes religieux, coutumes et sociaux de la patrie est très importante. En réalisant cette réunion, les valeurs religieuses et de Pancasila peuvent fonctionner en harmonie. À cette occasion, des jeunes enseignants islamiques ont déclaré l'alliance des psentraines de Java comme le renforcement de l'islam modéré. Il y a 5 déclarations qu'ils ont mentionnées, telles que psentraines va défendre et soutenir Pancasila, la Constitution 1945 ou Undang-Undang Dasar 1945, la République unitaire d'Indonésie et soutenir et respecter la valeur de Bhinneka Tunggal Ika. Chers amis, voilà la mise au point de la semaine de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel Persona Indonesia. Aujourd'hui, on va vous inviter à passer un bon voyage culinaire à l'est de Java. Le satay ou saté est l'un des repas populaires d'Indonésie. Il est un plat de viande marinée en brochette ou grillade, servi généralement avec la sauce du même nom, sauce saté. Ce plat est servi avec beaucoup de variations de la sauce. Et d'habitude, il est servi avec la sauce au jarajit et on consomme le poulet, le mouton, le bœuf, l'agneau et le lapin comme la principale matière. Mais uniquement, il y a quelques variations de viande qui sont consommées pour produire le saté. L'un d'entre eux, c'est la viande d'escargot. Le riz compacté ou le lontong, le concombre émincé ou oignon cru sont souvent présentés avec le saté. On trouve facilement ce plat partout. Le saté de Chorjon a son distinction. Le saté est fait de petits morceaux de viande qui sont poignardés sur une pension et ensuite on fait cuire au four sur charbon de bois. Le saté à l'escargot est l'un de la variation de cuisine que vous devez goûter quand vous êtes à Kediri, une ville de l'est de Java. Ce repas délicieux est y compris des menus préférés pour manger après avoir jeûné ou l'iftar. La viande d'escargot contient beaucoup de protéines. Les citoyens locaux croient que la viande d'escargot peut augmenter leur endurance après avoir jeûné pendant un jour. Elle est servie avec la sauce aux arachides. Et bien sûr, ce repas est très délicieux et savoureux. De plus, la texture de cette viande d'escargot est élastique et tendre. Pendant le mois de Ramadan, beaucoup de gens qui habitent à Kediri cherchent le saté à l'escargot pour l'iftar. C'est vraiment facile de le trouver à Kediri, surtout au village de Djengol, à Plosok Kidul, et ce village est le centre de la cuisine d'escargot. Il y a beaucoup de petits restaurants au bord de la rue et de boutiques de souvenirs qui produisent les aliments ou bien des biens, donc la principale matière est l'escargot. Ils obtiennent la viande d'escargot à Pasuruan et Malang. Le prix du saté de l'escargot est bon marché. Le prix de 20 brochettes est 8000 rupiah. Et si vous ne voulez pas manger dans cette place, vous pouvez enrouler en utilisant deux feuilles de bananier ou vous pouvez manger chez vous. On fournit 50 brochettes de saté à l'escargot dont le prix est 20 000 rupiah. Non seulement le saté, on fournit aussi le krengsengan à l'escargot dont le prix est 8 000 rupiah. Et bien sûr, vous pouvez le manger chez vous. Le krengsengan est un repas qui est fait à partir de morceaux de viande d'escargot qui est servi avec l'assaisonnement de l'oignon sauté, l'ail, la coriandre et la muscade et aussi la sauce de soja supplémentaire. De plus, il y a aussi la chip de l'escargot et vous pouvez aussi le goûter. Le saté et le krengsengan sont fraîches pour une journée. Chers amis, voilà l'édition de Pesona Indonesia aujourd'hui. Donc le sujet est le saté à l'escargot. Demain, on va se rencontrer avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. L'Indonésie est un pays qui est si riche de plus de 14 000 îles, contient de diverses beautés géographiques, des montagnes, la mer, des plages, des lacs, des forêts jusqu'à la grotte. Cependant, saviez-vous que la beauté de l'Indonésie ne fait pas partie seulement à un paysage? Une barrière de pH peut aussi ajouter à la liste de la beauté qui existe en Indonésie. La cabine de pH est celle Salatiga qui se trouve à kilomètre 53, section 3 Bawen Salatiga, une partie de la route à péage Semarang-Solo. La beauté de cette barrière de péage a commencé à se déployer depuis une image Salatiga péage mise en circulation et devenue virale sur les médias sociaux récemment. L'image a été téléchargée par un utilisateur de Twitter nommé Danar Samudra. Il y a beaucoup qui assument directement cabine de péage Salatiga comme cabine de péage avec le paysage le plus beau du monde. Même la force aérienne d'Indonésie juxtaposait la beauté de la cabine de péage Salatiga avec l'État suisse. De beaux paysages seront trouvés par les usagers de la route à péage Semarang-Solo, y compris la cabine de péage Salatiga. L'environnement autour de la route à péage est encore si beau et naturel. À droite et à gauche de la route, on peut voir le terrain, des montagnes et des vallées. Selon le personnel des opérations PT Transmarga Java, la route à péage Semarang-Solo a un slogan « Route à péage panoramique » ou « La route avec un beau panorama ». Bien que le slogan soit comme ça, cette beauté qui peut être appréciée tout en utilisant la cabine de péage Salatiga n'est pas quelque chose de prévu. Le directeur opérationnel de PT-TMJ, Fauzi Abdulrahman, a plaidé, ne sait pas si la porte de péage a été accidentellement construite sur l'arrière-plan de la montagne Merbabu ou non. Le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, a dit qu'il n'y a pas d'intention dans le plan de développement de porte à péage Salatiga. Cette nouvelle virale d'une porte de péage dans la région Java Central a également atteint les oreilles du gouvernement local. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, examine immédiatement la porte de péage Salatiga pour confirmer sa beauté et sa fonction pour l'été 2017. Le gouverneur Ganjar voit qu'il y a un potentiel pour le tourisme de la barrière de péage des plus jolies en Indonésie. Le gouverneur Ganjar espérait également de bien promouvoir la porte de péage Salatiga, y compris la création d'un lieu de repos pour les usagers de la route. Au cours de l'été 2017, la porte de péage Salatiga peut être utilisée sans frais ou gratuite. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courir et musique. L'équipe de l'émission française de la voix d'Indonésie pour vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons religieuses qui sont réalisées en 2017 par des musiciens d'Indonésie. Voici la première chanson dont le titre « I love you Allah » chanté par Charity. Bonne écoute.
jadi hidup yang terindah.
Merci à toutes et à tous qui sont envoyés les courriers et les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Je voudrais profiter de cette occasion de saluer les auditeurs. Voilà une chanson de Shahrini dont le titre c'est « I love you Allah ». Cette chanteuse qui est connue par son apparence glamour. Elle avait cherché de réaliser des chansons religieuses. Pourtant, elle a enfin lancé sa nouvelle chanson religieuse au 1er juin 2017, dont le titre c'est « I love you Allah ». Bien que ce soit une chanson religieuse, ses paroles sont toujours doux et son arrangement musical a la sensation d'une insouciance et peu d'élèvement de malaise. Cette chanson est créée par un musicien d'Indonésie qui s'appelle Charlie Van Houten. Ce chanteur religieux n'a pas vraiment une nuance de tristesse pour que ses auditeurs veulent reconnaître la grandeur d'Allah. Leïla Atour, plus précisément, merci beaucoup pour quelques suggestions. Vincent, 14 rue Camille Saint-Saëns, 92400 Courbevoie, France. Jean-Michel Aubière, 13 route des Brissettes, 183340 Arcueil-la-France. José Socorro Suero Maranao, à Avenida Alcide Rocha, 469 Moreno, Ceará, le Brésil. CEP 6500000. Et puis, Narmouti Noiri, BP 104 bis Sétif, 19000 Algérie. Ces auditeurs, avant de parler des chansons pop religieuses qui sont lancées en 2017, nous vous présentons maintenant une chanson de Massif dont le titre Jardin du Paradis.
Aku terlalu kecil, begitu hina, penuh dosa. Aku terlalu sering melalaikan segala perintahmu. Aku bagai debu terbangan, tiada arti hidup tanpa dekapanmu. Izinkanlah aku sejenak.
Thank you. di hasana wakina atrabana.
Merci d'écouter la voix d'Anonissi. Meilleure salutation à Maurice Mercier, 137 Rue François Giraud, 69400 Villefranche, à la France. Et puis Lupna, à 1130 Springdale Drive, Pittsburgh, PA11236 USA. Et puis, on a Abdelkader Khalil, adresse BP669, Warjia, Algérie. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci de continuer à suivre nos programmes. On écoutera des chansons suivantes intitulées « Quand les mains et les pieds disent », chantées par Fatine et Sincère par Issan Taroré. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Aku meminta ridomu, ya Allah. Aku memohon hidayahmu, ya Allah. Diriku tak rasakan bahagia, hidupku tidaklah sempurna. Aku meminta ridomu, ya Allah. Aku memohon hidayahmu, ya Allah. Ikhlasku terima ujianmu, resahku jalan taubatku. Serahkan segalanya, hidup mati bahagia dan dukaku, aku hanya manusia.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était la rubrique Courrier et Musique. Et ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.